Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas.
Vous avez reconnu Georges Brassens, évidemment, qui chante un coup de Trafalgar dans les copains d'abord. Alors, un coup de Trafalgar en français, bah, ça veut dire un très mauvais coup, hein, inattendu et désastreux. Bonjour Pierre Marlet.
Bonjour.
Si vous nous parlez aujourd'hui de Georges Brassens et de ce coup de Trafalgar, c'est pour une bonne raison. La bataille de Trafalgar s'est déroulée un 21 octobre et vous allez nous expliquer, elle résonne étrangement par rapport au Brexit.
Eh bien, pour comprendre, on doit commencer par un petit rappel historique. Trafalgar, c'est donc un promontoire rocheux pas bien loin de Gibraltar, dans le sud de l'Espagne. Le 21 octobre 1805, une flotte franco-espagnole, les deux pays sont alliés à l'époque, livre bataille face à la flotte anglaise de l'amiral Nelson, qui perdra d'ailleurs la vie au cours du combat. Et Nelson entre dans la légende car il a remporté une victoire éclatante sur ses ennemis, 27 navires britanniques dont aucun ne sera coulé, face à 33 vaisseaux français et espagnols, et sur ces 33, 21 seront détruits, rien que ça. Cette bataille coule définitivement, au sens propre, tout projet d'invasion française de la Grande-Bretagne. Trafalgar pour Napoléon, bah c'est l'inverse de la bataille d'Austerlitz qui a lieu quelques semaines plus tard. La France va dominer le continent, mais au plan maritime, elle est désormais incapable de vaincre l'Angleterre. Celle-ci, se sachant invincible grâce à ses flottes, va dresser des coalitions, les unes après les autres, contre Napoléon et, 10 ans plus tard, finira par vaincre l'empereur à Waterloo.
Oui, au fond, Pierre, Trafalgar, c'est le symbole de l'invincibilité britannique qui est inscrit au plus profond de la mémoire des citoyens du Royaume-Uni.
Qui tient les mers, gagne les guerres. Ou, comme le disait dès le XVIe siècle de manière prophétique, l'aventurier et poète Walter Raleigh, qui tient la mer, tient le commerce du monde et qui tient le commerce, tient la richesse. Et voilà, qui résume à merveille ce que sera la Grande-Bretagne du XIXe siècle. Elle règne sans partage sur les mers du monde entier et elle devient la plus grande puissance de la planète. À cette époque, d'ailleurs, on célèbre chaque année avec faste le Trafalgar Day, défilé, dîner, célébration triomphante tous les 21 octobre, ce sera le cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et cela en dit long sur la symbolique de Trafalgar, qui donnera également son nom d'ailleurs à un des lieux les plus emblématiques de Londres, Trafalgar Square. Le salut dans l'Angleterre se joue sur les mers. Durant les deux guerres mondiales, la flotte britannique va lui permettre de se préserver d'une invasion allemande. La Grande-Bretagne est une île, et cela marque encore aujourd'hui la mentalité de ses habitants.
Si je vous suis bien, Pierre, c'est bien avant le vote, hein, en faveur du Brexit. Les Britanniques n'ont jamais été des Européens comme les autres.
Eh bien oui, si on se souvient, après avoir adhéré à l'Union européenne en 1973, ils vont être des empêcheurs, si vous me passez l'expression, d'européaniser en rond. À chaque avancée vers une plus grande intégration européenne, les Anglais demandent l'exception. Schengen et l'abolition des frontières ? Ah non, merci. Une monnaie commune avec l'euro ? Non, pas pour moi. Bref, c'est un peu comme si les Britanniques étaient entrés dans l'Europe avec l'objectif de s'y opposer et presque de miner l'idée d'unité européenne. Cela marcha d'ailleurs très bien durant 40 ans, jusqu'au moment où, à force de leur répéter que l'Europe était le problème, eh bien, une majorité des citoyens britanniques a voté pour quitter l'Union européenne.
C'est quelque part une suite logique, hein, Pierre Marlet. La nation qui célèbre Trafalgar en tant que symbole de leur puissance maritime préfère le grand large.
Eh bien, à y réfléchir, peut-être pas tout à fait. Car à leur grande surprise, en déclenchant le Brexit, les dirigeants britanniques ont créé une unité européenne, justement, contre eux. Dans l'interminable négociation qui a suivi, ils sont parvenus à unir Européens de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, unanimes pour se montrer fermes vis-à-vis de ce Royaume-Uni qui voulait quitter l'Union. Et ça, cette unité de l'Europe contre eux, c'est pour les Britanniques une nouveauté. Réfléchissons, depuis le XVIIe siècle, toute leur diplomatie a toujours été fondée sur la division du continent européen pour empêcher une puissance dominante d'émerger. Au départ, le danger était espagnol, ensuite il fut français, c'est l'époque de Trafalgar, et puis au XXe siècle, allemand. À chaque fois, les Britanniques sont fidèles à l'esprit de Trafalgar, maîtres sur les mers, empêchant de tourner en rond sur le continent. Mais en déclenchant le Brexit, voilà que l'Angleterre s'est exclue elle-même du jeu. Elle se replie sur son île sans pouvoir jouer les troubles faits en Europe. En ce jour anniversaire de Trafalgar, les Britanniques sont-ils vraiment fidèles à l'esprit de Nelson, le héros de Trafalgar ? Eh bien, il est légitimement permis d'en douter.
L'esprit de Trafalgar, les Britanniques qui ont toujours été des empêcheurs d'européaniser en rond. Merci beaucoup, Pierre Marlet.